la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Du ragtime, nous sommes passés au stride la dernière fois, mais maintenant on va retourner au ragtime parce qu'il y a plusieurs pistes derrière le ragtime. Là, nous avons suivi la piste du Nord qui menait à Harlem et aux grands pianistes qui se sont emparés du genre pour en faire du jazz d'une certaine façon, mais aussi la piste du Sud parce qu'un ragtimer hyper important, qui est pour beaucoup d'ailleurs dans le début du jazz, s'appelait Ferdinand Lamotte, on en a souvent parlé ici, de son nom d'artiste Jelly Roll Morton.
Et il est très représentatif, parce que finalement, homme du Sud, cultivé...
Très bonne famille de Nouvelle-Orléans.
Voilà, métis.
Ce sont les créoles.
Ce sont les créoles. Okay. Et parlant donc français.
Ah, il parlait absolument français et espagnol. La famille s'appelait Lamotte. On notera avec intérêt que Lamotte, c'est près de Brioude et que le château de Lafayette aussi. Donc on peut très bien imaginer que l'ancêtre français est arrivé dans les bagages du général
Lafayette,
bien connu en Amérique, le trait d'union franco-américain. Mais son beau-père, parce qu'apparemment sa mère s'est remariée, enfin je sais pas bien, semble s'être appelé Mouton. D'où Morton. Enfin, c'est assez compliqué l'histoire. En tout cas, il a pris le nom de son beau-père, donc le deuxième nom de sa mère,
pour se faire. Pour qu'il s'entendait plutôt bien.
Voilà. Et peut-être, en tout cas, il a très rapidement foutu le camp de chez lui, puisqu'on le retrouve dès 15 ans dans les mauvais lieux.
Eh oui, parce que figurez-vous que ce petit jeuneau, d'ailleurs fort mignon, eh bien, il jouait dans ce qu'on appelle les maisons de tolérance, et puis plus simplement les bordels.
Exactement.
Le nom.
Là-bas, ça s'appelle les Sporting House. Et on avait toujours besoin d'un pianiste parce qu'il fallait faire danser les dames pour le plaisir des yeux des messieurs. Et Jelly Roll Morton qui a enregistré, là on a beaucoup de chance avec ça parce qu'il a été l'objet d'une très grande série d'enregistrements de souvenirs où il parle, il chante et joue du piano. Tout ça pour la bibliothèque du Congrès américain dont le responsable de la section folklore avait absolument l'œil sur Jelly Roll Morton et avait réussi à le coincer pendant toute une série d'enregistrements. Et là, Jelly Roll Morton nous apprend qu'à l'époque où il sévissait lui-même tout jeuneau dans ce genre d'établissement, il régnait un pianiste qui s'appelait Tony Jackson. Et ce Tony Jackson avait mis au point une petite danse qui accompagnait les décarpillages, qui s'appelait donc The Naked Dance.
Ce qui veut dire la danse nue.
Vous en pensez ce que vous voudrez. En tout cas, Jelly Roll Morton vous explique d'où vient ce nom, ce pianiste, et après il l'illustre avec son piano. Voici le striptease vu par Jelly Roll Morton.
For your information, I will try to play one of the Tony Jackson's fast speed tunes like he used to play years ago.
Comme vous voyez, on est là en plein ragtime, en fait. C'est un ragtime.
Tout à fait.
C'est absolument évident.
Mais alors, je suis extrêmement étonné de la vitesse à laquelle ces dames se déshabillent. Parce que si
oui,
on
là,
en juge d'après le rythme, c'est rapide.
Ça allait très vite. Jelly Roll avait reçu une éducation musicale plus complète que la plupart des musiciens de la Nouvelle-Orléans. Et il appartenait à un milieu musical. La construction classique de ses compositions témoigne de ces deux particularités. Et un critique un peu analyste de la musique ajoute que le dessin d'une structure très serrée est marqué par une économie de moyens qui confine à l'excès de concision. Et une idée musicale tout à fait précise est utilisée dans chacune des parties parce qu'il développe toujours les choses en trois parties. Il y a toujours trois thèmes chez Jelly Roll Morton. Et ça se termine toujours par une sorte de trio, c'est harmonisé. Et on a des manuscrits de Jelly Roll Morton qui existent, qui ont été conservés. Et on se rend compte que non seulement il savait la musique, et non seulement il savait, mais que la manière dont il l'écrivait montre qu'il avait vraiment l'habitude de l'écrire. Il n'y a pas de rature, c'est cursif. Et c'est très lisible.
C'est impeccable.
Oui, absolument impeccable. Donc le jeune Ferdinand Lamotte, donc de culture classique, classique, a été poussé vers le piano par une rencontre avec un concertiste classique, d'ailleurs, dont il parle, mais dont il ne donne jamais le nom. On ne sait pas très bien. En tout cas, le deuxième grand choc de sa vie qui l'a fait obliquer vers le ragtime, c'est un nommé Porter King, un pianiste donc de ragtime, qui n'a jamais enregistré quoi que ce soit d'ailleurs, mais dont Jelly Roll Morton faisait grand cas comme de son influence première. Et il lui a dédié un morceau qui s'appelle King Porter Stomp. Alors il explique tout ça naturellement, toujours dans sa fameuse série La Bibliothèque du Congrès. Voici à peu près comment Jelly Roll Morton conçoit, explique et expose musicalement ce morceau qui est très célèbre, qui est un standard du jazz, qui a été même enregistré par beaucoup de big bands, qui s'appelle King Porter Stomp.
United States. You must pardon me for clearing my throat, since I've got to do it occasionally. Of course, I tell you the fact about it. I don't know what the name Stomp mean myself. There really wasn't any meaning, only that people would stamp their feet, and I decided that the name Stomp would be fitted for it. Of course, this tune, I was inspired by the name from a very dear friend of mine and a marvelous pianist now on the cold, cold ground. A gentleman from Florida, an educated gentleman with a wonderful musical education, far much better than mine. Now this gentleman's name was Mr. King, Porter King. This gentleman was named Porter King, as I before stated.
Avant de nous expliquer d'où vient ce morceau, de nous parler de Porter King, là, ce qu'il vient de faire, Jelly Roll Morton a parlé du stomp. Et en fait, on a l'impression que dans son esprit, le passage du ragtime au jazz, c'est le passage du rag au stomp. Tous ces morceaux, pratiquement, enfin beaucoup de ces morceaux, vont s'appeler stomp. Ça fait Flores après.
Et dans ce morceau-là, c'est intéressant parce qu'il l'a écrit à 17 ans.
Et c'était en 1902.
Vous vous rendez compte ?
C'est son premier morceau. D'ailleurs, c'est là qu'il a eu un choc, parce que ce pianiste Porter King dont il parle l'a tellement émerveillé qu'il a tout de suite composé un morceau dans son hommage.
Et à 17 ans, il avait déjà la notion de la construction des morceaux. C'est-à-dire vraiment quelqu'un de très rigoureux.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ça va se confirmer toute son existence qui, elle, est loin d'être rigoureuse, en fait.
Rigoureux en musique, mais pour le reste, bouf bouf.
Mais j'ai insisté là-dessus parce que c'est vraiment un passeur, Jelly Roll Morton. Là, on est dans une autre école, on est vraiment dans le sud et un climat harmonique tout à fait différent de celui des pianistes de Harlem. Il y a une touche espagnole qui est célèbre dans le jeu de Jelly Roll. Et on va retourner un peu au ragtime parce qu'il a composé également très jeune un morceau qui pour lui était le comble du ragtime et qu'il a appelé naturellement
The Perfect Rag. On ne peut pas dire mieux.
Ah non. Voilà, The Perfect Rag. Alors, on est encore dans le rag. Hein.
Absolument.
On va encore y rester un petit peu, d'ailleurs.
Alors là, on va voir une drôle de chose. C'est un rag qui a été composé pour une circonstance vraiment particulière. Hein. Imaginez-vous qu'il jouait ce morceau sous un chapiteau de cirque pour accompagner le numéro d'un contorsionniste déguisé en grenouille.
Et qui s'appelait Froggy Moore.
Froggy, c'est la petite grenouillette, quoi. Et effectivement, il est étonnant parce que ce jeune homme, finalement de bonne famille, n'a aucun a priori. je vais jouer pour un contorsionniste sans problème.
C'est vrai, je vais faire du cirque, je vais faire des mauvais lieux, je vais aussi en faire des bons. En plus, comme c'est un très beau mec, hein, en fait, hein, quand on voit les photos de lui entre 20 et 25 ans.
Ah oui, il est beau.
Il est vraiment très beau. Donc, on va revenir là-dessus. Mais c'est un type extrêmement libre, en fait. Moralement, un peu élastique, mais quand on parle de gens libérés, J.D. Rolmanton, c'est la liberté en musique, et pourtant, sa musique est très construite,
voilà.
Rigoureuse.
C'est les deux faces de sa personnalité, finalement.
Et c'est une très bonne synthèse. Ce morceau, le voilà, nous allons d'ailleurs l'écouter deux fois, parce qu'il symbolise un petit peu quand même, comme on disait, c'est un passeur, le passage du rag au jazz. Voici la version donc rag de J.D. Rolmanton au piano, qui s'appelle Froggy More, rag, naturellement.
Quelle différence il y a entre les deux versions, alors ?
Ben, comme on va entendre là, la musique de King Oliver a déjà basculé sur le versant jazz de la musique. En fait, il y a des gens qui disent, finalement, dans la musique de King Oliver, on sent encore les origines européennes du jazz, cette composante européenne, on sent la polka.
Oui.
Et c'est vrai, quand on entend King Oliver, on a l'impression que c'est presque à deux temps. On est sur des zones de passage et de synthèse. C'est très intéressant, justement, à écouter à cause de ça. Alors voilà le même morceau, pendant que vous l'avez encore dans l'oreille, on se dépêche. Voilà le même morceau par l'orchestre de King Oliver. Là, c'est donc le fameux orchestre où Louis Armstrong joue deuxième trompette, King Oliver, première trompette, et tout un tas d'immenses musiciens avec eux. Là, ça ne s'appelle plus Froggy More Rag, ça s'appelle Froggy More. Ils ont mal compris le titre, mais ils ont bien compris la partoche quand même.
Thank you.
Jelly Roll Morton, c'est un bourlingueur absolument incroyable. On reste un peu médusé.
Il a été à Chicago, puis à New York.
Oui.
Et puis on le retrouve jusqu'au Mexique, en Alaska. Et quoi encore ?
Eh bien, absolument partout. Il serait plus court de dire où il n'est pas allé. En fait, ce type-là, il a réussi à tout mener de front. Je ne sais pas comment il a fait.
Quelle santé !
Il a réussi à être présent à Chicago au moment où le jazz, c'était la capitale du jazz dans les années 20. Il a réussi à refaire surface à New York après la crise, quand le jazz s'est déplacé à New York dans le showbiz. Il a réussi à accrocher un contrat d'exclusivité dans la maison Victor, qui était une très grosse compagnie. Là, je pense que ses éditeurs de musique, les frères Melrose, ont beaucoup milité pour. Mais il a réussi. Et alors, parallèlement à ça, il est allé partout où il avait envie d'aller. Et où il y avait quelque chose à faire. Alors
oui.
Là,
mais,
il n'est pas gêné. Hein.
Mais le quelque chose à faire, c'était pas forcément que le piano.
Ah ben non. De toute façon, quand un gars comme ça arrive quelque part à une époque où le piano, il y en a partout, et où tous les bars ont leur piano, etc., de toute façon, il n'est jamais à court de travail. Hein. Mais
il
n'est pas non plus à court d'idées.
Voilà, il a d'autres cordes à son arc. Et imaginez-vous qu'il est un peu souteneur de temps en temps.
Il a été souteneur à l'occasion, oui, je pense, oui, absolument.
Alors, joueur de billard aussi, mais alors à très haut niveau.
Ah ouais, professionnel, hein, du billard. Je crois me rappeler qu'il y a eu un duel avec le fameux Pensacola Kid, dont on doit encore parler dans les annales billardesques.
Ah, oh, puis il ne fait pas que jouer au billard, il joue tout court, aux dés, aux cartes, à tout ce qui peut rapporter de l'argent.
Et là, il en gagne, avec ça. Il en gagne. D'ailleurs, il en gagne tellement qu'il est couvert de diamants à une époque de sa vie, à tel point que pour être sûr de ne pas se les faire voler, il a mis le plus gros dans une de ses dents.
Alors, c'est vous dire.
Alors, il a un sourire étincelant à cette époque-là.
Il est aussi meneur de revue.
Oui.
Oui, oui.
Ah oui, il a l'expérience de ça, il sait faire, exactement.
Éditeur de musique.
Et à plusieurs reprises, il a été éditeur de musique. Et puis alors, on peut encore y ajouter, parce qu'il a été également tenancier de maisons de jeu. Il a été manager de boxe. Il a été tailleur.
Je me demande si ça irait pas plus vite.
Non, c'est incroyable.
De dire ce qu'il n'a pas fait.
C'est absolument incroyable. Il a été tailleur. Et puis alors, surtout, il a été l'inventeur du jazz. Ça, c'est selon lui. C'est ce qu'il pensait de lui-même. Il est un peu mégalo, quand même. Et même très mégalo.
Alors, il l'a écrit sur ses cartes de visite, oui. Figurez-vous.
Et en plus, je veux dire, c'est pas entièrement faux. Quand on réfléchit, le grand passeur du ragtime au jazz, c'est Jelly Roll Morton.
C'est un peu vrai.
Et il le symbolise. Et puis, en plus, au point de vue classe musicale, il tient le choc. Hein. C'est pas un vantard. Quand il dit « je suis le meilleur », il peut le dire. Il est dans les meilleurs.
Mais quand même, ça surprend.
Et alors, ça a beaucoup surpris Hugues Panassier, justement, qui, dans un livre de souvenirs, à une époque où il était à New York, donc avant-guerre, raconte l'irruption chez lui de ce personnage étonnant.
26 décembre 38. Vers 2 heures de l'après-midi, coup de sonnette à ma porte. Un noir d'une cinquantaine d'années me dit « Je suis Morton » et me tend une carte de visite et je lis « Jelly Roll Morton, Originator of Jazz », ce qui veut dire « Créateur du jazz ». Comment vous êtes Jelly Roll Morton? Mais asseyez-vous donc. Et Jelly Roll n'y va pas par quatre chemins. Comment ai-je pu être si mal renseigné sur les origines du jazz? Comment, dans mon livre, ai-je pu mentionner tant de musiciens sans importance alors que je ne parle même pas de lui? Comment peut-on publier un livre sur le jazz sans que son nom à lui, Jelly Roll Morton, ne figure à toutes les pages? Je ne peux que lui faire d'humbles excuses et lui expliquer qu'au moment où j'écrivais mon premier livre, je ne connaissais que 2 ou 3 de ses disques et n'étais pas assez compétent pour me rendre compte de leur valeur exceptionnelle. J'ajoute que dans mon prochain livre, il n'en sera pas de même, car j'ai maintenant compris tout ce que lui doit la musique de jazz. Jelly Roll voit que je suis de bonne foi et se montre aussitôt charmant. Il m'explique qu'il est resté à l'écart des milieux du jazz, vivant à Washington depuis plusieurs années, mais qu'il va reprendre son activité, reformer un orchestre et montrer au monde de quoi il est capable.
Le gag, c'est qu'il l'a vraiment fait, en plus.
En plus, il parle et déparle, mais il est bien sympathique. Je comprends, après tout, qu'il éprouve le besoin de clamer sa valeur. Personne ne s'est jamais soucié de le faire, alors qu'une foule de musiciens se sont inspirés de lui et sont devenus célèbres et qu'ils ne lui en viennent pas à la cheville. Et puis, s'il se proclame un génie, c'est avec une telle candeur, une telle absence de prétention choquante. Tel autre musicien qui ne dit jamais un mot sur lui-même vous fait sentir d'une façon odieuse qu'il surclasse tout le monde, se montre véritablement puant. Avec Jelly Roll, on ne sent aucun malaise, on sourit et on se dit « quel phénomène ». Jelly Roll m'invite à l'entendre jouer du piano dans les bureaux de Clarence Williams. Sur ces entrefaites arrive Tommy Lanier. Jelly Roll et lui ne s'étaient pas revus depuis des années. À peine en présence l'un de l'autre, ils se mettent à rire sans pouvoir dire un mot.
Et voilà, c'est ça le jazz. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, on a des tas de très bons copains, on les voit très peu, de loin en loin, et quand on se rend compte,
c'est
on
ça,
a envie de rigoler.
C'est comme si on s'était quitté hier. Exactement. Et qu'il n'y avait pas eu d'interruption.
Voilà, puis on est plutôt content de se voir. Jelly Roll Morton est également un mémorialiste sonore, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, la bibliothèque du Congrès a enregistré ses souvenirs, et là c'est très précieux, parce qu'il livre un témoignage sur la vie de la Nouvelle-Orléans, la naissance du jazz, toute espèce de bouillonnement absolument irremplaçable. Et là, on a une plage très intéressante. Il parle d'une chanteuse de rue qui s'appelait Mamie Desdoum. Mamie Desdoum était chanteuse de rue. Elle était mendiante et à l'occasion, elle jouait du piano. Et au piano, elle ne connaissait qu'un seul blues qu'elle jouait comme elle pouvait parce qu'il lui manquait des doigts.
À Mamie Desdoum.
Et tout ça, ça fait une sorte d'histoire, de légende absolument incroyable qui est totalement détaillée et magnifiée par Jelly Roll qui le joue au piano naturellement dans sa fameuse série de la bibliothèque du Congrès.
Mamie's Blues.
Mommy was Mamie Desdoum. On her right hand, she had her two middle fingers between her four fingers cut off. And she played in the street, so she played a blues like this. All day long when she played to get up in the morning.
Un autre morceau de musique s'appelle Mama Nita. Et en fait, Mama Nita, c'était Anita Gonzalez, qui était la femme de Jelly Roll Morton.
Comment cet homme-là, dont la vie est quand même assez complexe, hein, il était marié?
Eh bien, il était marié. Et alors, c'est assez marrant parce que Jelly Roll Morton, musicalement, il restera toute sa vie un créole. Il avait toujours quelque chose de cette atmosphère de Nouvelle-Orléans ou l'Espagne à sa présence. On a toujours un petit côté espagnol dans pas mal de ses compositions. On appelait ça la Spanish Touch de Jelly Roll Morton. Elle est très célèbre. On le reconnaît grâce à ça, entre mille d'ailleurs. Et alors, ce morceau, Mamanita, dédié à Anita Gonzalez, c'était une créole de Nouvelle-Orléans qui était plus âgée que lui. Et alors, il visitait la famille parce qu'il, quand il était tout gamin, il aimait bien cette fille. Il aimait bien la rencontrer, la voir. Et sous prétexte d'aller voir ses frères, il venait chez elle. Et Mamanita dit « Je ne lui avais jamais accordé beaucoup d'attention parce que ce n'était pas un garçon convenable. Il joue du piano dans une maison de tolérance. » Alors beaucoup plus tard, en Californie, parce qu'elle est un peu bourlinguée aussi, on lui présente un type qu'elle ne reconnaît pas. Mais en fait, c'est le même. Et là, ils se marient. Donc, ils vivent ensemble. Alors, pendant un temps, ils ont un hôtel. Et puis, finalement, il reprend la route et elle l'accompagne absolument partout. Il la faisait asseoir près du piano, mais elle ne devait ni bouger, ni taper du pied, ni rien dire.
Oui, et vous savez pourquoi? Parce que cet homme-là était en plus très jaloux.
Extrêmement jaloux. Et il lui interdisait de danser avec quiconque. Alors, elle s'en foutait parce qu'elle aimait que lui, de toute façon. Mais il était tellement jaloux qu'il n'invitait même jamais un ami à dîner quand elle était là. Elle était tellement frustrée parce qu'elle est une bonne chanteuse de ragtime et une bonne danseuse. Un beau jour, la chanteuse de l'orchestre, pendant une tournée, tombe malade. Elle saute sur scène avant qu'il ait eu le temps de faire ouf et elle commence à chanter, à danser. Et là, Jelly Roll s'arrête de jouer. Alors tous les musiciens, parce que c'était une terreur en plus comme chef d'orchestre, tout le monde s'arrête. Elle continue à danser, à chanter toute seule. Et quand elle a fini, il y a un tas de billets de banque sur le sol de la scène. Elle les ramasse, elle le regarde et là, il n'est pas content du tout. Vraiment pas content. Il la traîne dehors et il lui dit « Tu ne recommenceras plus jamais ça. » Mais ajoute-t-elle, il ne m'a pas frappé, car Jelly était un vrai gentleman. Ils sont séparés, ils sont revus. Enfin, de cette vie chaotique, Jelly Roll a tiré le morceau que vous allez entendre, qui s'appelle donc
Mamanita. Thank you.
quand on entend ça, le doute n'est plus permis. Anita Gonzalez était manifestement la femme de la vie de Jelly Roll Morton.
Ah oui, je pense. Et pourtant, il en a bien eu une autre. Hein.
Ah oui, il en a eu.
Enfin,
et même beaucoup.
Plein d'autres. Beaucoup.
Mais de son côté, elle a toujours dit que c'était l'homme de sa vie. Elle n'a jamais eu personne d'autre.
Ouais.
Après.
Ouais.
Naturellement, lui, dans tous ses voyages, ses jours, bourlingages et autres, il a rencontré beaucoup de monde, mais il se rappelle toujours avec bonheur un séjour au Mexique, à Tijuana, et d'une serveuse tellement délicieuse, qui avait de si belles dents, qu'il a fait un morceau exprès sur ces dents-là.
Et ça s'appelle The Pearls, c'est-à-dire les perles.
Les perles.
Oh, que c'est poétique.
Hein, sacré Jelly Roll. Et là, nous allons passer à la version orchestrale, ce qui va nous mener à la conception de l'orchestre par Jelly Roll Morton, car on ne peut pas parler de Jelly Roll Morton sans parler de sa conception de l'orchestre. Quelqu'un a dit « Jelly Roll Morton est aux petites formations ce que Duke Ellington a été aux grandes. »
Important. Ce trompettiste là qui joue si bien.
Sa cornettiste, c'est un des musiciens que Jelly Roll Morton préférait employer. C'est un type tout à fait méconnu à mon avis, qui s'appelle George Mitchell. Il s'appelait George Mitchell. C'était un type dont la particularité, et j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte, c'est qu'il ne cherche jamais à aller dans l'aigu. Il mène son truc à sa main, une mise en place parfaite. Un son très, très infléchi. Il utilise beaucoup là, son dinwawa simplement pour travailler le son sans faire d'effet vocal. Et c'est un très grand musicien. Un des plus grands pour moi, en Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, Jelly Roll Morton utilisait que des gens sachant parler la langue. Hein.
Donc, si je comprends bien, il jouait beaucoup dans le médium.
Oui, essentiellement. Essentiellement. Là où le cornet a le plus de rendement, d'ailleurs, en fait. Tellement aussi joué de la trompette, mais je pense que là, il est au cornet. Voilà donc Jelly Roll, chef d'orchestre. Avec Jelly Roll, rien n'est laissé au hasard. Il fait son casting, il fait ses arrangements, il organise des répétitions, ce qui se fait très rarement hein, en matière de jazz enregistré. Les répétitions sont tout à fait rares. Généralement, on répète au studio, on met au point, puis on y va, tu vois. Pas du tout. Là, il veut un résultat précis et pas autre chose, qu'il n'y ait pas un truc qui dépasse. Il fait donc des répétitions et, en plus, chose qui lui apporte toute la considération voulue de la part de ses confrères musiciens, il paye bien les répétitions et il paye bien les séances. C'est-à-dire que c'est lui qui paye ses musiciens pour les séances. Lui, il est au forfait, il se débrouille, je pense qu'il se débrouille très bien d'ailleurs, et il paye les gens. C'est pas du tout la boîte qui paye les musiciens. C'est une nuance, c'est un vrai chef. Par lui, tout passe, sinon, il sait pas faire. Et dans ces disques-là, ça l'empêche pas de développer une solide philosophie, et à ce titre-là, voici un morceau qui en dit long.
Docteur Jazz.
Naturellement, ça s'appelle Docteur Jazz Stomp. Et les paroles commencent par un coup de téléphone. Allô, Central, passez-moi le Docteur Jazz. Il sait ce que j'ai et il a ce qu'il faut pour ça. Il va me donner quelque chose, il va me faire sauter hors de mes chaussures. Ça part comme ça. Et c'est lui qui chante. Docteur Jazz.
Thank you.
la structure de son morceau orchestral, on dirait exactement la structure du piano.
C'est conforme. Nous avons eu l'occasion, nous, de rencontrer, il y a bien longtemps, un musicien qui a beaucoup travaillé avec Jelly Roll Morton, qui était un clarinettiste créole de Nouvelle-Orléans, établi en Europe, sur le tard, et qui s'appelait Albert Nicolas. Et Albert Nicolas nous avait dit, Jelly Roll Morton, c'est travailler avec lui, c'était absolument une place pour chaque chose et chaque chose à sa place.
Et il n'était pas commode. Hein.
Oui,
ça, il fallait absolument passer par où il voulait.
Et quand ça ne se passait pas bien, il piquait une grande colère et il terrorisait son monde. Mais à côté de ça, il n'était quand même pas complètement borné, hein, naturellement. D'ailleurs, quand on entend sa musique, on s'en rend bien compte. Un autre clarinettiste de Nouvelle-Orléans également, que Jelly Roll considérait comme le plus grand, d'ailleurs, qui s'appelait Homer Siméon, a raconté un peu comment ça se passait.
Jelly Roll était très exigeant quant à l'interprétation de sa musique. S'il jugeait que tel ou tel des musiciens qu'on lui proposait ne savait pas jouer dans le style de la Nouvelle-Orléans, il prenait quelqu'un d'autre. Je vous dirai comment il se comportait pendant les répétitions, poursuit Siméon. Il était correct avec nous, très jovial, débordant d'énergie, mais sérieux. Nous passions peut-être 3 heures à répéter 4 faces. Et pendant ces 3 heures, il nous montrait les effets qu'il désirait. Par exemple, l'accompagnement d'un solo. Il le jouait au piano avec un seul doigt et les musiciens l'harmonisaient. Les solos étaient laissés au gré de chacun. Nous jouions les morceaux comme nous les sentions. Bien sûr, Jelly avait ses idées. Quelquefois, nous nous y conformions et quelquefois avec les nôtres. Nous arrivions à faire quelque chose de mieux. Pour moi, je faisais tout ce qu'il voulait. En d'autres termes, je collaborais avec lui, alors que beaucoup d'autres s'y refusaient. Ce fut ma première grande chance.
Tout ce que vient de dire Homer Siméon se retrouve absolument dans ce blues que Jelly Roll, naturellement, pensait sans doute avoir également inventé en même temps que le reste, et qu'il a sans doute appelé également pour ça.
Original Jelly Roll Blues.
Thank you.
tous ces orchestres à composition variable, mais quand même comportant souvent les mêmes musiciens, qui se retrouvent de séance en séance, s'appelaient les Red Hot Peppers. Et il y a même des toutes petites formations dans les Red Hot Peppers, par exemple. Jelly Roll Morton affectionnait beaucoup le trio avec clarinette. Clarinette, piano, batterie. Et je suis en train de me dire que finalement, ça trouve ses références dans l'ancien temps de la Nouvelle-Orléans, où la musique était un peu partout, et où donc il y avait des formules à géométrie variable selon les circonstances. Et je pense que le petit trio avec un clarinettiste devait être assez répandu. Alors Jelly Roll a ressuscité ça. Et en voici un bel exemple avec un très grand clarinettiste de là-bas, qui a joué chez Duke Ellington par la suite, et chez Louis Armstrong d'ailleurs, et qui s'appelait Barney Bigard. Et ça s'appelle
Smiling the Blues Away,
avec Zooty Singleton à la batterie. Dans ces séances d'enregistrement tellement bien réglées, on dirait comme du papier à musique, ça s'impose. Il n'y a pas que des échos de cette espèce de rigorisme. D'autres musiciens
appréciaient
beaucoup ça et considéraient quand même que Jelly Roll Morton n'était pas un type obtus et figé. Et Johnny Saint-Cyr, qui a beaucoup participé aussi à ce genre de séances, a complété le propos d'Homer Siméon avec une autre manière de parler de ses séances.
Jelly était un compagnon d'enregistrement merveilleux. Et je vais vous dire pourquoi. Il ne vous imposait jamais aucune de vos spécialités. Il vous laissait le soin de décider, disons, à quel moment vous deviez prendre un break, à quel moment la clarinette devait prendre un break. C'est pour cela que ces disques offrent plus d'inventions que vous n'en trouvez dans les disques de Joe Oliver, par exemple. Voyez-vous, Joe, quand il enregistrait, ne sortait jamais de la voie qu'il s'était tracée. Il fallait jouer comme il disait et pas autrement. Si bien que les musiciens avaient les nerfs tendus et qu'ils ne pouvaient donner libre cours à leurs sentiments comme ils l'auraient souhaité. Mais Jelly Roll me demandait « Peux-tu faire un break ici ?» Je lui répondais « Ok, parfait, reprenons, disait-il. Quand nous arriverons là, tu feras le break, allons-y. Que votre conscience soit votre guide, poursuit Johnny. Si c'était bon, tant mieux. » Dans le cas contraire, Jelly disait « Attends une minute. Ça ne me paraît pas fameux. Vois si tu peux faire mieux. » On essayait quelque chose d'autre et on arrivait à le satisfaire. Si l'idée ne venait pas, eh bien, il donnait le break à quelqu'un d'autre. « Toi, essaye sur la clarinette » ou bien « Toi, essaye sur la trompette ». Si ces disques sont si riches en inventions et en artifices ingénieux, c'est à cause de la liberté qu'il accordait à ses musiciens. Quelquefois, c'était nous qui lui demandions. Nous avions une idée de nous laisser jouer un certain break. Et il était toujours ouvert aux suggestions.
Ça va étonner beaucoup de monde d'ailleurs, ce propos, mais c'est de première main naturellement. Pour terminer cette évocation de Jelly Roll Morton, qui nous a emmené quand même du ragtime au jazz Nouvelle-Orléans, hein, je crois qu'il faut terminer par un morceau qui le résume tout entier. À mon avis, il l'a composé en son propre honneur. Ça s'appelle
« Winnin' Boy Blues ».
Alors « Winnin' Boy », ça veut dire beaucoup de choses. Plutôt, ça peut en vouloir dire. D'abord, c'est le tombeur.
Ah bon ?
Ah oui, un Winnin' Boy, c'était un tombeur.
Oui, donc là, Jelly Roll, il s'y retrouve.
Mais alors, comme Winnin' Boy, c'est aussi un type qui gagne.
C'est
un gagneur.
Un battant.
Ouais, exactement. Donc, lui qui savait si bien jouer, il savait aussi très bien gagner. Alors, ça le résume tout à fait. C'est un très joli morceau qui, naturellement, n'est pas un blues, quoi qu'il s'appelle blues, mais c'est très joliment joué. Là, on a d'autres musiciens, parce qu'il a aussi fait appel à la génération d'après. Là, par exemple, à la trompette, on a Sidney de Paris. Le blues du tombeur.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.